Mais d'abord, je vous présente Wally. Wally était un tireur d'élite dans les forces armées canadiennes pendant la guerre en Afghanistan. Wally, bonjour.
Bonjour.
Vous avez écrit un livre qui s'intitule « Mission tireur d'élite ».
C'est ça.
Et c'est un peu de ça dont on va parler dans les prochaines minutes. D'abord, vous avez décidé de devenir soldat avec le Royal 22e Régiment.
C'est
donc
ça.
Un régiment prestigieux. Vous avez été soldat de 2002 à 2015.
Ouais.
Pourquoi vous avez décidé de devenir soldat?
Ben, en fait, là, c'est une question que je m'attendais pas trop, là, mais j'ai tout le temps été un peu un aventurier.
Oui.
Un peu comme Indiana Jones, puis c'est en moi. T'sais, je suis qu'il y a plein de soldats qui vont répondre de la même façon. C'est comme même pas une question à laquelle tu as déjà répondu consciemment. Je peux dire ça. Tu sens que tu es juste fait pour ça. Tu es fait pour être soldat. Comme il y en a qui pourraient dire je suis fait pour la politique ou je suis fait pour être médecin, par exemple. Je suis fait pour être soldat.
Puis, donc, c'est le goût de l'action?
C'est tout ça. C'est d'être utile.
Être utile?
D'ailleurs, je pense que c'est une des raisons pourquoi il y a tant de soldats qui sont post-traumatiques. C'est parce que quand tu reviens, tu sens une espèce de. Je pourrais dire une espèce de poids de. T'es quasiment inutile. T'sais, tu passes de, je pourrais dire, d'université à tu retournes au primaire. Là. C'est pour ça qu'il y en a plein de soldats qui.
Ta vie a un sens quand t'es en mission et tu reviens de ta mission et là, c'est
souvent,
comme si ta vie n'avait plus de sens.
Souvent, c'est ça. Oui. Puis il y a des gars là, qui s'ennuient d'Afghanistan justement pour ça. Je connais un gars qui a perdu une jambe, puis il dit que l'Afghanistan. Il a perdu une jambe en Afghanistan, puis il dit que l'Afghanistan, ça a été une des meilleures expériences qu'il a eues. Ça, c'est pas une exception. Il ne faut pas penser que c'est des êtres bizarres dans le coin. Là. C'est une grande majorité de soldats qui sont pas post-traumatiques. C'est juste qu'ils s'ennuient d'être, je pourrais dire, utiles, des soldats au front.
Ouais. Ça, je peux comprendre ça. Alors, vous êtes allé en Afghanistan en 2009, en 2010 et en 2011.
Oui, c'est ça. Deux missions en Afghanistan.
Deux.
Je n'aurais fait plus si j'avais pu, mais des fois, c'est ça. Il y a bien des soldats, je suis sûr, qui vont être d'accord avec moi. Là, on veut y aller, on veut y aller. Puis là, des fois, à un moment donné, on attend, puis notre tour arrive enfin. Puis ça valait le coup parce que c'était carrément comme tireur d'élite. Puis la mission a été vraiment. Pour vrai, ça a été une mission parfaite. Là. J'ai adoré mon expérience là-bas. Là.
Okay.
Eu de l'action en masse. Puis...
Vous avez eu de l'action en masse?
Ouais.
Ça veut dire quoi, ça, avoir de l'action en masse?
Ah, mon Dieu, hey, on faisait...
Vous étiez dans la région de Kandahar, qui
ouais,
était la région
vraiment,
la plus dangereuse. Là.
Puis ça brassait dans le temps. Puis c'était vraiment un contexte où on sentait qu'il fallait vraiment prendre des territoires aux talibans. Des fois, on allait dans des territoires qui n'avaient pas été repris.
Ils n'avaient jamais été repris,
ben,
aux talibans?
Ben, peut-être qu'il y avait eu des opérations, mais c'était vraiment des bastions, là, comme je suis sûr qu'il y a des vétérans que je vais leur prononcer ces villes-là. Par exemple, le secteur de Nakone. On a eu perdu beaucoup de gars, là. T'sais, puis on allait là, puis les snipers, souvent, qu'est-ce qu'on faisait, par exemple? Ça, je raconte dans mon livre l'histoire, t'sais, une genre de patrouille classique, c'est que tu t'en vas en hélicoptère, t'es quatre gars, puis tu t'en vas dans le territoire ennemi,
mm-hmm.
quatre gars la nuit, par exemple, puis là, tu marches de nuit, tu te diriges vers, par exemple, une montagne, puis là, tu restes caché, ça ressemble vraiment à la chasse, là, t'es comme caché, sauf que tu t'es plus loin qu'à la chasse, évidemment.
Mm-hmm.
Puis là, t'observes, tu peux appeler des frappes aériennes, tu peux engager par arme à feu, tu rapportes beaucoup d'informations. Les tireurs d'élite, on est beaucoup, faut être très bon avec la radio, faut être très bon en observation. T'sais, on pense que t'arrives là, puis un gros tapis rouge, puis tu vas avoir 50 talibans alignés, puis après ça, tu vas revenir, tu vas avoir une médaille qui va t'attendre, c'est pas ça, c'est beaucoup de patience. C'est beaucoup d'observation, puis souvent, la solution n'est pas de tirer. Hein. Parce qu'il faut savoir que quand tu tires, la balle est supersonique. Hein. Fait qu'elle fait un bruit, même si c'est un silencieux. Donc, du moment qu'on tire une balle, on dit qu'on est compromis. Donc, notre position est compromise. Puis quatre gars, compromis en territoire ennemi, ça peut virer mal assez vite. Donc, souvent, on collait des frappes aériennes avant de tirer, ou on prenait, par exemple, c'est arrivé qu'on prenait des photos, carrément, puis on suivait, puis on prenait les coordonnées des insurgés qu'on repérait.
C'était plus utile de repérer les insurgés.
Souvent.
Et de faire du renseignement, dans le fond.
Souvent, oui.
Plutôt que d'engager.
Souvent, mais Caroline, on a eu beaucoup d'engagement, là, dans le livre, là,
bon.
On tirait souvent, puis.
Mais ça, c'est une des questions que je voulais vous poser. Quand vous dites on tirait souvent.
Ouais.
Vous avez tiré combien de fois? Vous devez avoir une idée.
Les tirs, juste tirés, là, Colin, je les compte plus.
Parce okay, que m'en parles-tu de centaines de fois?
Ah, bon, attends une minute. En tout, là, on a dû tirer, mon Dieu, une bonne cinquantaine de fois tirés, parce qu'il faut comprendre que des fois, on tirait pour avertir, parce qu'on ne voulait pas tuer. Puis il y a des fois, là, que je te dis, là, on ne tuait pas juste parce qu'on lui laissait une chance, parce que ça nous tentait d'y laisser une chance. T'sais, on disait, OK, il n'est pas supposé être sur le bord de telle route, c'est pas supposé être là. Mais Colin, là, on jasait là, comme on jase là. Puis, hey, ça, qu'est-ce que tu penses de ça? Attends, je vais aller voir un petit peu. Là, comment tu feels? Bah, on laisse partir. C'est le même. On
aurait tu veux pu... dire entre vous autres, dans votre équipe de
comme
quatre?
Oui, comment on jase là? Ah, moi, je pense qu'on devrait le laisser partir.
Parce
que
tu n'es pas sûr que c'est un insurgé. Tu ne veux pas tuer quelqu'un qui est innocent, qui n'a rien à voir
avec. Je vais donner un exemple qui est arrivé.
Vas-y.
Puis ça, c'est un exemple qui, parmi tant d'autres, il y en a plein de même. Il y a une route. qu'il y a souvent des bombes, il y a eu des pertes. Puis là, les villageois viennent avertir la coalition, les chefs de village. OK, cette route-là, s'il y a quelqu'un qui va là, OK, il n'y a pas d'affaire là, tirez-les. Ça, c'est les villageois qui nous disent ça. Là. OK, tirez-les. Puis là, une heure après, tu vois quelqu'un.
Mais comment tu peux avoir confiance que ce que le villageois te dit?
Ben, les villageois, ils savent, ils sont entre eux autres, puis ils se parlent, ils ont des réunions. Mais en même temps, c'est ça, exactement, tu te poses des questions que tu viens de me dire.
Peux-tu me fier sur l'information que j'ai?
Oui, mais...
C'est-tu vraiment un insurgé?
Dans ce cas-là, oui? Ben, c'est justement ça. Est-ce que ça se pourrait que ça soit quelqu'un qui a, par exemple, qui est en visite, puis que ça arrive des fois, puis là, il n'y a pas d'affaires là? Ça pourrait sûrement être un insurgé, mais des fois, tu as un petit doute dans ce genre de situation-là.
Et donc, quand tu as un doute, tu tires pas?
Ben, nous autres, on tirait pas quand on avait un doute, là.
Non?
Non.
Tu es sûr de ça?
Absolument. Exemple ici, là, j'ai une douille, tu vois ici, ça, c'est une douille que j'ai apportée 11 septembre, que j'ai tirée. Ça, dans cette situation-là, c'est un adolescent qu'on a carrément, là, que j'ai tiré, puis que c'est moi qui, dans le fond, qui l'a descendu, dans le fond. Puis dans ce cas-là, là, c'était vraiment clair parce qu'on s'est fait tirer dessus. Il y a eu de l'artillerie qui est tombée autour. Il y a eu un engagement sérieux. Puis en plus, ce gars-là, il tenait des jumelles puis il nous cherchait. Malheureusement, il est tombé dans la mauvaise gang. Après ça, on l'a punché avec la 3-3-8 qu'on a.
On l'a punché.
Ouais. C'est ça qu'on dit. On dit punché, on dit on l'a pincé, on parle de même. C'est pour ça que mon livre, il est pas...
Je trouve ça dur un peu, là, parce que c'est des vies humaines quand même. Ouais. Puis en même temps, j'ai pas le goût de jouer au cœur tendre. Vous êtes en mission, t'es en guerre. Le gars, il peut te tuer, lui aussi. Là,
ouais, mais quand t'es soldat, là, la manière que je parle, là, ça, c'est comment qu'on parle entre nous autres. Il n'y a pas de filtre. Là, je ne mets pas de filtre. Je dis vraiment, on jase de même. Mais souvent, après ça, tu ressens quand même l'aspect humain, je pourrais dire ça. Mais du coup, des fois, là, c'est quasiment, là, tu viens de faire un but, puis t'es content, puis tu donnes une tape dans le dos, là. Hey, c'est bon, on les a eus, puis tu viens d'en coucher un, tu viens d'en tirer un, puis on est bien content de ça. C'est sûr que tu réalises que t'as quand même tiré avec un. Par exemple, une fois, on a tiré un gars, justement, à Nakoné, puis il est tombé, puis après ça, il y a quelqu'un qui est venu chercher le corps. Puis là, on l'a vu, nous, avec nos optiques. Puis après ça, on a vu carrément à distance, là, l'enterrement. Ce qui est quand même assez live, là, quand tu regardes ça, là. Là, c'est sûr, là, ça te prend, là, t'es là, Colin, là, c'est... T'sais, en même temps, c'est ça qui est troublant, c'est que c'est facile. Puis en même temps, tu tires quelqu'un, tu penses que c'est la grosse affaire. Ben non, il fait juste tomber, puis il bouge plus, puis c'est tout.
C'est ça, t'es pas dans un film. Là.
Non,
il n'y a pas de musique qui accompagne.
Ben, il fait pas des grosses, t'sais. Souvent, il fait pas des grosses pirouettes, puis du sang qui gicle à tout finir. Souvent, il y a pas tant de sang que ça. En fait, les blessures sont souvent internes. Puis il tombe, puis ça finit là, puis tu regardes autour de toi. Il n'y a rien de différent.
C'est comme la mort devient banale.
C'est banal. Manière. C'est ça qui est troublant.
Est-ce que vous avez, donc, vous l'avez dit, là, vous avez abattu, qu'est-ce que je te dis, c'est ça, hein? Abattu un adolescent, puis vous avez une autre douille beaucoup plus grosse, celle-là.
C'est ça.
Celle-là aussi, elle a servi à
tuer quelqu'un. Elle a servi,
ça,
c'est une 2.50, fait que c'est assez massif. Là.
Ça, c'est une arme, là. Écoute, la douille est grosse, là. Elle fait pas loin de 6 pouces, là, mettons.
Ouais, ben, c'est plus haut qu'une canette de Coca-Cola, cette affaire-là. C'est fait que ça a de la force, là.
Ça tire, ça peut tirer sur quoi, sur un kilomètre, là?
Un kilomètre à peu près efficace. On dit efficace, c'est-à-dire que tu peux
atteindre ta cible.
Presque garantir ta cible dans des conditions normales. Jusqu'à 800 mètres, je te dirais qu'on peut garantir. T'sais, mettons que c'est une prise d'otage, je te dirais moins, on changerait d'arme. Il y a plusieurs réponses à cette question-là. Mais en règle générale, je te dirais 800 mètres, c'est une bonne portée. Après ça, si on s'éloigne, ben là, ça devient... On va falloir ajuster, on va pouvoir la toucher. Puis encore là, ça dépend du contexte.
Comme il y a un tireur d'élite là, de l'armée canadienne, je pense que c'est lui qui a le record, ou en tout cas, il l'a eu pendant un certain temps. Là. Il avait tiré quelqu'un sur une distance phénoménale.
Ouais, ben, en Irak, il y en a eu un, je pense qu'il y a 2 ans. C'est comme 2,6 kilomètres.
J'allais dire 3 kilomètres.
Ouais, je me rappelle même plus la distance.
C'est hallucinant, là. Imagine-toi.
Ah, ben, là, rendu là, c'est un gros slingshot qui retombe. Là. C'est vraiment. Mais souvent, là, il faut tirer plusieurs balles. Mais il faut savoir qu'à cette distance-là, passer 1600 mètres, la balle devient subsonique. Donc, elle ne fait plus de bruit. Parce que quand, mettons, je prends cette arme-là puis je la tire à côté de quelqu'un, je le manque, en bas de 1600 mètres, quand la balle est supersonique, ça va faire une espèce de claquement dans l'air, puis la personne va tout de suite s'en rendre compte, à moins que je tire en avant. Mais passer 1600 mètres, même si je manque la cible, ça nous est arrivé des fois, bien après ça, la personne ne s'en rend même pas compte qu'on est en train d'ajuster sur elle l'arme. Fait que là, ça donne un avantage. Dans le cas
de l'Irak. Parce que tu peux ajuster ton tir pour te rater.
Pour le vent. Mais même un meilleur tireur d'élite au monde, là, il ne peut pas tirer. C'est un coup de chance s'il touche la cible à des distances très élevées. Il faut qu'il ajuste le tir.
Alors, on a compris que vous en avez tué un autre avec la grosse douille.
Moi, dans le fond, j'en ai deux. J'en ai pogné deux. J'en ai punché deux, puis mon team, à peu près six, je te dirais, je pense.
Ça, c'est des soldats des Forces armées canadiennes. Là. Ouais, on parle là, de soldats du 22e régiment, là, ouais, du Royal
ça.
22e.
C'est mon team, en fond, on a punché à peu près, je te dirais, six. Puis si on compte l'artillerie puis l'aviation, là, ça monte à plusieurs dizaines.
Parce que
là,
vous avez commandé, tu le disais tout à l'heure, des frappes aériennes. Là.
Ben en fait, c'est beaucoup plus efficace souvent des frappes aériennes. Là. Tu tires une balle, t'sais, exemple, cette balle-là ici que j'ai tirée, la .50, après ça, ça devient super calme. Là. Qui va se lever à la tête quand que ton ami vient de se faire tirer avec une balle? Tu sais même pas d'où ça vient, c'est sûr qu'il n'y a rien. Pis les frappes aériennes sont souvent beaucoup plus efficaces, on faisait beaucoup plus de pertes comme ça.
Deux questions en terminant. Aucun cauchemar?
Bizarrement, aucun cauchemar. T'sais, j'ai aucun traumatisme apparent. Je ressens
rien. Vous étiez là pour faire un travail, ouais, vous l'avez fait, puis vous vivez vous êtes très serein par rapport au fait que
le
vous avez...
Le gars qu'il y avait avant l'Afghanistan, c'est pas mal le même qu'il y a maintenant, après l'Afghanistan.
Et avec le recul, le rôle que vous avez joué là-bas, avez-vous l'impression que ça a fait une différence? Là, on apprend que les talibans vont reprendre le pouvoir là, en Afghanistan. Est-ce que ça...
En fait, ils ne reprendront pas le pouvoir, là, mais il faut faire bien attention en ce moment de ne pas... gâcher la recette de gâteau à la toute fin au moment de la cuisson. Si on négocie avec du monde de mauvaise foi, comme c'est le cas avec les talibans en ce moment, ça peut tout gâcher. Il faut comprendre qu'en ce moment, en Afghanistan, c'est un peu un moment charnière parce qu'il y a beaucoup de jeunes, mettons quelqu'un qui a, par exemple, 25 ans, par exemple, qui est à l'université à Kaboul, on va dire, lui, il n'a pas vécu beaucoup le règne de terreur des talibans. Mais il sait, il en a entendu parler. Fait qu'il ne veut pas retourner vers ça, fait qu'il a peur. Mais si on perdure un petit peu plus, là, je dirais peut-être 5-10 ans, là, il va quasiment avoir aucun soutien dans beaucoup de villes envers les talibans.
Et puis, il ne faut pas oublier, on a perdu au-dessus de 100 soldats.
Ça, il ne faut pas compter. Hein? On ne compte pas les autres pertes. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un mort, il y a un blessé.
Oui, on a eu plusieurs centaines de blessés. Ouais. Il y en a qui sont restés, évidemment, handicapés pour la vie. Non, mais on est au-dessus de 100 soldats qui sont morts pendant cette guerre-là. On en a quelques-uns du Royal 22e. Là.
Vous en avez plusieurs. Ce qui était troublant, c'est quand tu arrives pour te rendre en Afghanistan, au relais, dans le fond, à Dubaï, tu avais des plaques de commémoratives. Puis il y avait, nous autres, nous en avaient rajouté, tu vois, des plaques vides. Là,
parce qu'ils savaient qu'il y en aurait d'autres.
Oui, c'est assez...
Il y a eu des hommes, il y a eu des femmes également. Le premier décès, c'est Karine. Vous nous parlez de Karine dans votre livre.
Oui, c'est ça. Hein, c'est ça. Oui, puis c'est le premier. En fait, on était passé à ce camp-là à peu près 2 jours, je crois, avant. Ouais. C'est là que tu réalises que c'est plus la pratique. Là. C'est vraiment...
C'est sérieux. Ouais. Alors, le livre s'appelle « Mission tireur d'élite ». L'auteur, c'est Wally.
Si vous voulez aller le voir, l'acheter, c'est livreswally.com. Puis là, il y a tous les liens si vous voulez l'acheter.
Très bien.
En ligne, 9,99 ou 27 $ en version papier.
Merci, Olivier, ouais, parce que c'est ton prénom, Olivier, mais on ne donne pas ton nom de famille parce que, comme tu me disais, avec tous les moyens électroniques, les réseaux sociaux et tout le reste, il y a des gens qui pourraient essayer de te retrouver. Merci pour le témoignage.
Ça fait plaisir.
Dans un instant, pourquoi est-ce qu'on mange si mal? J'ai hâte d'entendre la réponse dans un instant.